Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous permettra de faire le point sur le pétrole, l'or et l'ensemble des matières premières. On en parle avec Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Grégoire.
Bon, j'ai toujours le biais de commencer par le pétrole. Ça reste quand même un actif clé, notamment pour les marchés un peu globaux. Pétrole qui a repris 10 dollars en un mois, là, sur le mois de juin. Alors, il avait perdu 10-15 dollars entre avril et fin mai, début juin. Là, il reprend 10 dollars en ligne assez droite. Quel est le rationnel de ce mouvement?
Il y a trois choses principalement. Une première qui est une raison conjoncturelle. Le mois de mars-avril, c'est la période où vous avez des maintenances d'un certain nombre de raffineries. Parce que c'est une période creuse, on sort de l'hiver. Donc les raffineries en profitent pour faire un peu de ménage et un peu de nettoyage. Donc traditionnellement, quand les raffineries tournent moins, elles consomment moins de pétrole. Donc la demande diminue un petit peu, on constitue des stocks. Et forcément, ça met une pression un peu baissière sur le cours du pétrole. La raison de la reprise derrière, c'est que ces raffineries ont rouvert et puis on rentre dans la période estivale. Et la période estivale, c'est une période où ça peut paraître surprenant, mais où on consomme plus de pétrole, en moyenne 1 million à 1 500 000 barils de plus de pétrole. Et on attend des chiffres aujourd'hui de la part de l'Agence internationale de l'énergie qui ont dû tomber à l'heure où on se parle. Mais les chiffres de l'API hier, qui est l'American Petroleum Institute, faisaient valoir un très fort recul des stocks aux États-Unis. Ouais. Qui laisse penser effectivement que le marché pourrait être plus tendu. Et on s'attend, du fait de cette période estivale où la consommation est plus forte, à des retraits de stocks au troisième trimestre, qui pourrait mettre un peu plus sous pression le marché du pétrole, ce qui explique aussi cette reprise. Et puis, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a aussi un contexte international qui est toujours compliqué. Il y a encore eu des bateaux qui ont été attaqués au large du Yémen durant le week-end. Donc, ces problèmes-là reviennent sur le devant de la scène. La situation entre Israël et le Hamas reste très compliquée. Il y a eu des demandes d'évacuation de villes, là, avec potentiellement des nouvelles frappes. Donc, tout ça participe d'un climat un peu anxiogène qu'on avait un peu oublié parce que les problématiques conjoncturelles faisaient qu'il y avait un peu moins de tension sur le marché du pétrole. Et donc, tout ça, c'est un peu détendu. Il y a aussi eu des déclarations de l'OPEP qui a laissé
fin
à ces réductions de production progressivement. Et donc, tout ça a délivré un bol d'air. Globalement, ce qu'on peut dire sur le marché du pétrole aujourd'hui, c'est qu'on a toujours ce coussin des pays de l'OPEP qui fait que si on peut difficilement s'attendre à une correction forte, en particulier compte tenu de la conjoncture avec l'entrée dans cette période de forte consommation, l'envolée des cours est aussi peu probable, sauf embrasement dans la situation au Moyen-Orient. D'ailleurs, on le voit bien, quand on regarde les marchés optionnels, on constate qu'il y a très peu d'intérêt pour les options à 95 dollars, à 100 dollars sur le pétrole, ce qui montre bien qu'on attend toujours une stabilisation, ouais. On va dire entre 75 dollars et 85, 90 dollars. Alors, c'est une fourchette qui est large, on est sur un marché qui est assez mouvant. Le problème des matières premières, c'est que ce sont des marchés dont la valeur est établie de façon spot pour un équilibre entre l'offre et la demande à l'instant T. Et donc, ça peut bouger relativement vite. Il y a un dernier point peut-être à souligner qui peut être important. On a depuis quelques jours un ouragan sur l'Atlantique, l'ouragan Beryl.
Oui, bien sûr.
Un ouragan de catégorie 5, donc un ouragan majeur. Et il faut savoir que c'est la première fois qu'au mois de juin, il s'est formé dans les tout derniers jours du mois de juin, c'est la première fois en 174 ans de data qu'on a un ouragan majeur
qui de cette catégorie. D'accord.
Au mois de juin.
Ah ouais,
ça n'est jamais arrivé, donc on voit bien peut-être les effets du changement climatique qui commencent à s'affirmer parce que la température de la mer est très élevée et donc ça favorise la création de ce type d'événement. Donc on pourrait peut-être avoir une saison des ouragans majeurs. Et ça, c'est important parce que ces ouragans, je vous rappelle, ils traversent l'Atlantique et ils finissent leur parcours quelque part autour du golfe du Mexique.
Ah ouais.
S'ils partent vers le Texas, la Louisiane, d'abord, il y a des plateformes pétrolières qui peuvent se retrouver interrompues pour des longues périodes. C'est arrivé par le passé. Et puis après, ils peuvent finir leur course en Louisiane et au Texas, où il y a une grosse partie de la capacité de raffinage américaine. Et ça peut entraîner des arrêts assez longs de ces capacités de raffinage et donc tendre le marché des produits raffinés, gasoil et essence en tête.
À propos de changement climatique, je voulais avoir votre vision un peu longue, peut-être même d'ailleurs, de la montée des populismes en Europe à l'issue des élections européennes, du choc d'incertitude en France et d'une nouvelle gouvernance politique qui s'annonce, du retour probable de Donald Trump pour un second mandat, encore plus probable visiblement chez les bookmakers après le débat raté de la semaine dernière. On a le sentiment que ça peut être perçu comme étant autant de vents contraires face aux efforts de transition énergétique qui commencent ou qui commençaient à être déployés ces dernières années. Est-ce que vous partagez ce regard et est-ce que c'est des changements ou des déviations politiques qui peuvent avoir un impact sur le thème de la transition et donc sur le sujet des métaux de la transition,
Alors, Benjamin. Faut jamais ignorer ce genre de sujet. Néanmoins, j'ai l'audace de croire que ce sont les participants à une économie qui font cette économie. Et aujourd'hui, on l'a bien vu, même en France, des francs opposants à cette transition sur un certain nombre de sujets. On peut parler de Carlos Tavares, ouais, chez Stellantis, qui était profondément...
Il dit ne changez plus les règles.
Et il dit maintenant,
oui,
stop,
revenez plus sur la fin du moteur thermique. Oui.
Je pense qu'il faut ajouter une autre chose, Grégoire. Il y a aujourd'hui un élément incontestable, les études le montrent de plus en plus, c'est que ne rien faire coûtera plus cher que de faire cette transition énergétique. Et donc, quelles que soient les déclarations des politiques, à un moment, les politiques, s'ils ont besoin de se faire réélire, cette question du coût va se poser et ils devront agir de façon pragmatique. Donc, pour moi, on ne reviendra pas en arrière et on a même intérêt à accélérer. Sinon, on va au-devant d'énormes problèmes. On le voit, la météo déplorable qu'on a en France aussi est liée à ces problèmes de changement climatique parce que la température évolue beaucoup plus vite, le réchauffement se passe beaucoup plus vite au pôle qu'à l'équateur, le différentiel de température change, ça entraîne des ralentissements dans le jet stream qui fait qu'on a ces mouvements, ces anticyclones ou ces dépressions qui restent bloquées très longtemps, alors que normalement, elle s'évacue, ouais, rapidement.
Phénomène de dôme, quoi, c'est
voilà,
ça. Ouais.
Tout ça participe du fait que, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus photo. On peut avoir les déclarations qu'on veut. On doit faire cette transition. Et il faut bien avoir conscience.
Y compris quand on est Donald Trump, Benjamin. Parce
Donald
que...
Trump, en fait, c'est pas vraiment le sujet. Aux États-Unis, ah oui, la transition, elle bat son plein. Regardez ce qui se passe en Californie. Et le point névralgique de la transition aujourd'hui, si on le regarde, c'est la Chine. Personne ne regarde la Chine. Tout le monde dit qu'elle ne fait rien. La Chine... En 2023, oui, a installé autant de panneaux, oui, solaires que le monde entier en 2022.
Mais Benjamin, juste avant. Non seulement on le dit, mais vous nous disiez exactement la même chose fin 2022 de ce que la Chine avait installé plus de panneaux solaires que dans l'ensemble du monde l'année précédente. Ça fait plusieurs années que cette
la
statistique reste
valable. La Chine a 5 ans d'avance sur son programme photovoltaïque. D'accord. Elle est en avance, elle a décidé d'une politique. Elle a dit qu'elle ne serait pas prête en 2050, mais en 2060. Et aujourd'hui, ils sont dans, ouais, les clous. Alors, c'est vrai qu'ils continuent à installer des centrales à charbon parce qu'il faut gérer le court terme, mais on sait que ces centrales à charbon n'iront pas jusqu'à la fin de leur vie et qu'elles seront remplacées progressivement. Donc, pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'on parle ici d'épiphénomène et que quand on va commencer à parler d'argent, tout le monde va revenir à la raison, va se rendre compte qu'on a beaucoup plus intérêt à faire cette transition qu'à ne pas la faire. Fort heureusement d'ailleurs.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est, dans un discours trumpiste, c'est sûr qu'on peut s'attendre à redonner des permis pour le fossile, etc. Et sans aller jusqu'à tout détricoter de l'IRA, limiter peut-être.
On peut faire ça, Grégoire, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un énorme problème de compétitivité industrielle sur toutes ces technologies qui vont s'imposer, quoi qu'on en pense, qu'on parle de la voiture électrique, des panneaux solaires, qu'on parle de l'activité minière, qu'on parle des éoliennes, et les Américains vont devoir à un moment ou à un autre embrayer aussi là-dessus, sinon ils vont se retrouver au banc de toutes ces technologies, ça va leur poser un énorme problème industriel. Ne serait-ce qu'au niveau véhicule, le marché automobile américain n'est pas suffisant pour les constructeurs automobiles américains. Donc il va falloir pouvoir vendre des voitures ailleurs.
Ouais. Voilà. Un mot des précieux, l'or fait plus grand chose mais tient bien, l'argent la prenait 4% aujourd'hui, visiblement. Où est-ce qu'on en est du cas d'investissement des précieux, or et argent notamment, Benjamin?
Alors ces métaux ont corrigé un petit peu, mais vous le disiez, l'or se tient très bien. Donc ça c'est très, ouais, intéressant de voir que l'or n'a pas baissé. Donc les gens qui ont acheté de l'or dans la première partie d'année ne sont pas sortis. C'est intéressant parce que ceux qui ont acheté de l'or dans la première partie d'année ne sont pas les gens qui achètent de l'or d'habitude. Il n'y a pas eu d'achat d'or en Occident.
Non, ce n'est pas le retail occidental qui a acheté de l'or.
En,
oui,
Europe, ou, oui, aux États-Unis, quand on regarde, ah, les proportions d'ETF, elles sont en baisse, oui, et elles, oui, ne remontent, oui, pas. Oui. Donc ce sont les Asiatiques qui ont acheté de l'or et, ouais, ils gardent cet or. Ouais. Donc l'or n'a pas baissé. Et on rentre dans une période qui va arriver, là, deuxième partie d'année, où on devrait commencer à avoir une détente monétaire. Or, les Occidentaux achètent de l'or quand les taux rebaissent, parce que l'or n'a pas de rendement, donc le désavantage diminue, et donc ils reviennent sur l'or. Donc on peut espérer un retour des Occidentaux en deuxième partie d'année. Et donc l'or devrait connaître des nouveaux plus hauts dans la deuxième partie d'année, c'est très probable. Il y a un autre facteur de soutien très important, depuis maintenant plusieurs années, on en a parlé déjà, ce sont les banques centrales.
Ah oui.
Et les banques centrales, ce qui est très intéressant, c'est que le World Gold Council les interroge tous les ans, c'est un organisme de place, hein, ouais, pour connaître leur sentiment vis-à-vis de l'or. Il y a un sondage qui est fait tous les ans et qui vient d'être publié. 70 banques centrales interrogées à travers le monde, essentiellement dans les pays émergents, et il y en a à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 dans les pays développés. Et ils leur posent toujours les mêmes questions. Et à la question « Que comptez-vous faire sur l'or dans les 12 prochains mois, cette année ?», 29% des banques interrogées répondent « on veut augmenter notre allocation à l'or dans les 12 prochains mois ». C'est le plus fort taux de réponse pour l'achat d'or depuis que le sondage existe en 2018. Alors, ça ne fait pas un gros recul, mais quand on voit les achats l'année dernière et l'année d'avant, qui sont des achats records depuis 1967, on peut se permettre d'être optimiste sur l'attitude des banques centrales vis-à-vis de l'or. Elles ont un peu ralenti à très court terme, mais le premier trimestre, elles en ont acheté 290 tonnes. C'était le plus gros premier trimestre pour les banques centrales de toute l'histoire depuis que les datas existent. Mmh. Donc, on a vraiment toujours un soutien de ces banques centrales qui est extrêmement important. Et aussi, dans les questions qui sont posées, il y a une question sur que pensez-vous que seront les détentions des banques centrales sur le dollar à horizon 5 ans ? Et à cette question, 62% des banques répondent qu'elles pensent qu'elles auront baissé un peu ou beaucoup à horizon 5 ans. La Banque centrale de Chine a vendu un record au premier trimestre d'actifs en dollars, 53 milliards. C'est du jamais vu.
Intéressant. Vous disiez dans ce sondage, c'est 70 banques centrales, une majorité de banques centrales émergentes qui sont interrogées par le World Gold Council. Et pourquoi le retail occidental a pas embrayé sur ce mouvement? C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
C'est toujours la même chose.
Il y avait mieux à faire.
Aujourd'hui, moi,
parce que j'ai le niveau d'anxiété de l'opinion publique, quand on regarde les enquêtes, il est là.
J'ai des gérants privés qui me disent, voilà, si j'achète de l'or, j'ai rien. Aujourd'hui, si j'achète des produits de taux,
oui.
Déjà, sans en faire grand-chose, c'est 4-4,5%. Oui. Donc, le différentiel est trop important. Donc, ouais. Même si on peut être intéressé et convaincu par l'or, on y reviendra plus tard, au moment où ce rendement aura un peu baissé et où donc l'argent, entre guillemets, facile disparaîtra. Donc, alors, ils reviendront probablement en deuxième partie d'année quand les banques centrales américaines et européennes ont vraiment embrayé leur baisse de taux. C'est, historiquement, c'est ce qu'on voit en Europe. Hein. PIMCO avait fait une étude sur le sujet. Il disait qu'il considérait l'or comme un actif à duration longue, de duration 22. Donc, dit autrement, 1% de variation sur les taux, à la baisse ou à la hausse, entraîne 22% de variation sur l'or dans l'autre sens. Si on attend une baisse de 1% des taux réels à horizon 12-18 mois, et ben on peut s'attendre à une appréciation de l'or de l'ordre de 20 à 25%. Donc, il y a un potentiel toujours important sur ce métal.
Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Louvet, qui était avec nous, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.